France Inter, le 18-20.
Que celui qui n'a jamais jeté un paquet d'aliments, même pas ouvert, nous jette le premier papier gras. Pas de quoi nous vanter, mais nous faisons tout ça. Sauf cet auditeur qui m'a déjà écrit pour m'engueuler, me dire qu'il n'avait jamais jeté un aliment de sa vie. Bravo monsieur, mais nous pauvres mortels, il nous arrive d'oublier des yaourts sous une quiche ou de laisser se gâter des fruits ou des tomates trop mûres quand on y pense trop tard. Poubelle, pareil quand on a les yeux plus grands que le ventre et qu'on jette une partie de son assiette finalement. Problème de riche, vous me direz, vous avez bien raison, on a l'habitude de l'abondance et c'est comme ça que l'équivalent de 10 millions de repas par an se retrouve à la poubelle. Et pourtant, on n'est pas si mauvais. La loi de 2016 qui demande aux grandes surfaces de ne pas jeter les invendus a fait progresser et on peut faire encore mieux. Faut-il associer à cela, c'est le sens d'ailleurs de 14 amendements à venir sur la loi sur l'économie circulaire, faut-il ajouter les petits commerces? Faut-il refaire de la pédagogie sur les dates de péremption? Faut-il contrôler mieux? Faut-il sanctionner mieux et différemment? Et vous, d'ailleurs, dans votre quotidien, vous avez peut-être des trucs, des méthodes. Ce soir, on finit notre assiette et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Jean-Marc, c'est vous le premier. Bonsoir Jean-Marc et soyez le bienvenu.
Bonsoir à tous et à toutes.
On vous écoute.
J'avais une question à poser. Quand on achète à l'unité, c'est beaucoup plus cher que quand on achète par plusieurs. Par exemple, deux tranches de côtelettes. Et si vous en achetez 10, vous payez beaucoup moins cher. Et donc, sur les 10, vous en mangez que 4. Et le reste, des fois, vous le jetez parce que vous n'avez pas envie de manger tous les jours une côtelette.
Et ben voilà. Donc, peut-être qu'il y a une histoire d'emballage là-dessous. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour votre question. Qui nous permet de commencer cette discussion tranquillement. Et pour répondre, bonsoir à vous Guillaume Garot.
Bonsoir.
Vous êtes député socialiste de la Mayenne, c'est vous le rapporteur de la fameuse loi contre le gaspillage de 2016. Bonsoir Pierre Galliot, vous êtes chef du service consommation et prévention de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Guillaume Garot, il a raison Jean-Marc, quand on achète beaucoup, c'est moins cher. Et si on ne peut pas congeler, problème. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de conditionnement en fait, qu'on pourrait revoir pour gâcher moins?
Certainement. Et c'est d'ailleurs une des responsabilités de la grande distribution que de proposer des produits qui soient adaptés à l'appétit de chacun et à la taille des familles. Moi je ne cesse de militer pour qu'on puisse vendre à l'unité. Mmh. Qu'on ne soit pas non plus dans le suremballage.
Mais que ce soit pas moins cher,
aussi
des
promotions. Mmh. Parce qu'on vous dit un lot de 12 yaourts et puis deux de 24. Mmh. Mais on sait que dans les 24, eh bien, il y a des parfums que vous peut-être vous n'apprécierez pas. Et du coup, vous laisserez ces yaourts au fond du frigo. Et c'est ça qui produit du gaspillage aussi.
Vous parliez des emballages du surplastique. Moi, j'ai lu quelque part, grâce à une auditrice, qu'effectivement, il y avait des produits, plus c'est plastifié dessous, plus ça pourrit vite. En fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que si on changeait un certain nombre de choses dans le conditionnement, ce serait plus simple?
Le travail qu'il faut conduire aujourd'hui, s'agissant de la lutte contre le gaspillage et du lien avec les emballages, c'est qu'on arrive demain à des emballages qu'on dit intelligents, qui soient capables de nous renseigner sur la validité du produit, et en particulier sa validité sanitaire. Alors, c'est aujourd'hui des programmes de recherche qui existent dans des entreprises, mais aussi dans des organismes de recherche publics. C'est l'avenir. Hein, et ça permettra justement d'être plus efficace dans les dates de péremption. Vous savez, vous en avez parlé dans votre propos liminaire, qui crée beaucoup de confusion, on le sait, dans la tête des consommateurs.
Et on y viendra absolument à ces dates de péremption. En effet, Pierre Galliot, il y a des choses simples. Par exemple, je pense à ce que disait à l'instant Guillaume Garot, mais si on avait aussi des emballages ouverts-fermés, tout simplement, fermer quelque chose, ça permet aussi de ne pas gâcher ce qui reste.
Bien sûr.
Ça. C'est bête et méchant, mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi bêtes que ça.
Alors déjà, le premier point, c'est vraiment la question du besoin. La question Jean-Marc était intéressante, c'est faut acheter par rapport à son réel besoin, parce que c'est ce qui dépasse qu'on jette. Et en effet, faire les restes, pouvoir conserver au maximum les aliments. Voilà. Les gestes sont assez simples. On a lancé des opérations, nous, avec pas mal de familles témoins, qui prouvent qu'elles peuvent réduire de 40 à 50% leurs pertes, simplement en adoptant ce geste assez simple. Et ce qui est important, c'est que les économies générées grâce à cette lutte contre le gaspillage alimentaire, elles soient réinvesties dans des produits de qualité et qu'on achète moins, mais mieux.
Guillaume Garot.
Oui, peut-être qu'il faut redonner un point de repère sur ce qu'on gaspille chacun, nous, comme consommateurs, dans l'année. C'est l'ADEME qui nous l'a dit, alors je parle sous votre contrôle, monsieur Galliot, mais 20 à 30 kilos de nourriture jetée chaque année, dont 7 kilos de produits toujours emballés. C'est ça le gaspillage alimentaire à l'échelle de ce que nous sommes, nous, comme vous disiez, modestes mortels.
Ça veut dire que moi, par exemple, à titre individuel, je jette combien ? Enfin, c'est-à-dire si on fait ce genre de... Nous, les individus, parce qu'effectivement, on peut parler...
20 à 30 kilos.
Voilà, on peut parler en pourcentage, je veux dire, on peut parler de la restauration, peut parler des grandes surfaces, on peut parler de la restauration collective. Moi, en pourcentage, je représente quoi là-dedans ? Mon effort à moi, il permettra de progresser comment ?
Alors, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, le consommateur final, c'est un tiers du gaspillage.
D'accord. Ce qui est beaucoup, hein.
Ce qui est beaucoup. On a un autre tiers, c'est la production en amont. Et ensuite, le dernier tiers, ça se répartit entre les industries agroalimentaires et la grande distribution. Donc, on a quand même une répartition assez équilibrée avec un rôle principal des consommateurs. Mais ce qui est important, c'est de noter quand même les effets de bord entre l'ensemble de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que c'est le choix du consommateur qui va jouer aussi sur l'offre, qui va jouer sur la production. Mmh. Donc, cette interdépendance, elle est importante à prendre en compte.
Alors, attendez, le un tiers en amont, c'est quoi le premier?
C'est la production agricole. Et oui, parce qu'on laisse parfois des productions au champ, des productions tout à fait consommables. Alors évidemment, les agriculteurs souhaitent vendre, tout le monde cherche à vendre au maximum.
À limiter les pertes, bien sûr.
Parce qu'encore une fois, la demande de des industries agroalimentaires, de la grande distribution et du consommateur joue sur finalement ce qui va être produit en amont.
Ou alors on laisse les fameux légumes moches. Par un moment, il y a eu cette opération qui s'appelle celui des légumes moches.
C'était une prise de conscience, c'était très, très utile. Mais il faut aussi, je crois, donner les chiffres globaux au sens planétaire. Et là, ça fait froid dans le dos. Aujourd'hui, nous gaspillons un tiers de la production alimentaire totale. Chaque année, on jette un tiers de ce que nous produisons. On est vraiment dans une société de l'absurde. Ouais. Alors, c'est vrai chez nous, vous le disiez, dans les pays développés, c'est plutôt le stade de la consommation. Mais dans les pays en voie de développement, c'est plutôt au stade de la production, parce qu'on ne sait pas bien stocker, on ne sait pas bien transformer sur place, transporter. Et donc, le combat que chacun peut mener dans son assiette, face à son placard, son frigidaire, c'est finalement une part à prendre dans ce défi alimentaire qui est mondial. Parce qu'aujourd'hui, on est 7 milliards d'êtres humains. On sera presque 10 milliards en 2050. Donc, il faut nourrir plus de 2 milliards d'êtres humains, en plus avec la même planète. Donc, pour ça, il faut commencer par ne pas gaspiller. Et ça a d'ailleurs des incidences très fortes sur le réchauffement du climat. Parce que le gaspillage alimentaire, de fait, c'est participer au réchauffement du climat. Parce qu'on utilise des ressources en pure perte. On produit des gaz à effet de serre.
Pierre Galliot, avant qu'on retourne au standard, allez-y.
Non, mais deux éléments. Un des problèmes majeurs, c'est le modèle économique dans lequel on évolue. C'est un modèle en volume. Pour faire du chiffre d'affaires, pour faire des bénéfices, il faut vendre au maximum. Donc, l'exemple des yaourts, c'est ça. C'est plus je vends. Voilà. Et le modèle de la grande distribution, c'est ça. C'est des faibles marges, mais sur des millions de pièces. Donc, ça, c'est un problème majeur. L'autre problème, c'est la baisse, tout simplement, de la dépense pour l'alimentation. Dans les années 60, 35% du budget des ménages était dédié à l'alimentation. On est moitié moins maintenant. Donc, on jette ce qui a moins de valeur et on ne jette pas ce qui a de la valeur.
Parce qu'on a d'autres frais, d'autres modes de vie et d'autres frais. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Olivier.
Je vous remercie de prendre mon appel. Moi, je suis président d'une association en région parisienne, à Bagneux. Et nous avons proposé, dans le cadre du budget participatif de la ville, un système de mutualisation de la collecte et du stockage des invendus, en fait. Alors, des invendus à la fois de la grande distribution, des restaurants, des cuisines centrales, par exemple, et même des consommateurs. On avait imaginé des systèmes de frigidaires mis à la disposition des gens dans certains lieux. Et en fait, notre projet avait beaucoup d'intérêt pour tout le monde, sauf que quand la mairie a commencé à investiguer la faisabilité du projet, elle s'est rendue compte que la réglementation alimentaire qui peut s'appliquer, et en particulier la mise en cause des élus en cas d'un incident ou de problème sanitaire, eh bien finalement a empêché que ce projet se réalise. Alors on menait des contraintes énormes de matériel, de vérification, de choses comme ça, qui n'étaient absolument pas proportionnées à nos moyens. Et voilà comment on enterre en fait une bonne idée, c'est parce que la réglementation actuelle n'est pas adaptée à cet élan de collecte et de redistribution.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Olivier. Guillaume Garot, là-dessus. Comment ça se passe de toute façon à la sortie des supermarchés, donc par exemple ?
Alors, aujourd'hui, la loi que j'avais fait voter en 2016, elle fait obligation aux grandes surfaces de donner leurs invendus alimentaires aux associations de solidarité. Et aujourd'hui, on peut dire que globalement, les grandes surfaces jouent le jeu. Elles donnent leurs invendus. pas toujours comme il faudrait, pas toujours à fréquence suffisamment régulière, mais elle donne. Ajoutons qu'il y a une déduction fiscale assortie à ce don, c'est très important, et je pense qu'il faut la conserver en l'état.
Oui, parce qu'il y a dans l'air de la supprimer.
Absolument, mais il faut qu'on fasse très attention. En tout cas, moi j'invite le gouvernement à être extrêmement attentif là-dessus, vigilant, parce que si on déstabilise toute la lutte contre le gaspillage alimentaire et la solidarité contre la précarité alimentaire, là on aura fait fausse route. Mais par rapport à la question que vient de poser notre auditeur, ce qui est vrai, et nous l'avons constaté avec Graziella Melchior, qui est députée du Finistère avec qui moi j'ai fait cette évaluation de la loi que j'avais fait voter, c'est qu'il y a encore des freins. Il y a des freins en particulier réglementaires qui existent et qu'il faudra pouvoir lever. C'est le sens des amendements que moi je porterai au moment de la loi économie circulaire à l'automne prochain. Mais il faut qu'on passe une nouvelle étape
par
contre
exemple,
le gaspillage.
Quel frein et alors par exemple, question idiote, quand ces invendus sortent du supermarché, qui les trie? Parce que c'était aussi le problème d'Olivier en fait. Qui trie ce qui est encore très largement consommable?
Mais ça devrait
ce qui ne le sera plus. Comment ça se passe?
Les grandes surfaces.
Or visiblement c'est les associations qui le font.
Eh ben oui, souvent. Or, moi je considère que les associations ne doivent pas être les centres de tri des grandes surfaces. D'autant que, je le rappelle, il y a une déduction fiscale. Donc il faut que le don soit de qualité. Ça veut dire que le don puisse être redistribué à ceux qui en ont besoin, les bénéficiaires des Restos du Cœur, des banques alimentaires. Et les bénévoles nous le disent tous les jours. Donc hommage aux bénévoles.
Parce que c'est ça, Pierre Galliot, que dit notre ami Olivier. Au fond, effectivement, il y a un certain nombre de réglementations. Il ne faudrait pas que la mairie se retrouve en porte-à-faux parce que des produits sont périmés, etc. Comment on peut simplifier ça, en fait? Est-ce qu'il y a un moyen de simplifier tout ça? Est-ce que ça veut dire que moi, je peux le faire et le mettre dans mon frigo collectif, ou c'est la solution la plus simple, ou au fond, ben non, en fait. Il va falloir un intermédiaire au milieu quand même.
Il y a évidemment un problème de responsabilité qu'il faut assumer, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a un scandale sanitaire...
Une salmonelle, c'est mort.
Enfin, exactement, voilà. Donc on peut le comprendre par ailleurs. Donc l'objectif, c'est en effet essayer de trouver un terrain d'entente entre les multiples initiatives, et il y en a énormément sur le terrain, vraiment, de récupération de ces invendus, et faire en sorte qu'en effet, on ait une sécurité derrière. Là, il y a des travaux à mener, notamment sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Écologie, pour aboutir à cela. C'est pas très simple, mais je pense qu'on peut vraiment progresser sur ce sujet-là.
Guillaume Garot, quand vous dites dans les amendements que vous proposez qu'il faut davantage de contrôle et de sanctions plus fermes, avec notamment des sanctions de poids, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on triche sur le poids dans les grandes surfaces?
Non, c'est pas tellement ça. Aujourd'hui, il y a des règles, et donc il est interdit de jeter de la nourriture consommable lorsqu'on est une grande surface.
Okay.
Première règle. Deuxième règle, il faut donner ces invendus aux associations de solidarité. Et donc, des règles, ça veut dire des sanctions. Les sanctions, lorsque vous détruisez la nourriture, que vous mettez de l'eau de Javel, ça, théoriquement, n'existe plus. Mm-hmm. Mais ça peut arriver que ça existe encore. Bon, eh bien, il y a une amende de 3750 euros par infraction constatée. Le problème, c'est que les contrôles par l'État, aujourd'hui, ils sont insuffisants. Mmh. Pourquoi? Parce que ce sont les inspecteurs, les contrôleurs de la répression des fraudes et du ministère de l'Agriculture qui nous disent « Mais nous, on est en nombre insuffisant sur le terrain. On n'arrive pas, on n'a pas le temps de faire tout ça. » Donc, moi, je presse l'État pour que nous ayons des inspecteurs du ministère de l'Agriculture, toujours les mêmes, ceux de Bercy, du ministère de l'Économie, pour qu'on puisse réellement faire ces contrôles et que derrière, on est sans doute des sanctions plus dissuasives. Et par rapport au poids que vous évoquiez, c'est une des propositions que nous faisons. C'est pourquoi pas des amendes au prorata du poids qui est à la poubelle, de telle sorte que ce soit réellement dissuasif.
Oui, ce qu'a relevé votre auditeur, c'est que le don peut vraiment être développé. Il y a la grande distribution, mais il y a la restauration collective, ça a été cité. Il y a les industries agroalimentaires, il y a le monde agricole qui déjà donne de son côté. Et là, le potentiel pour ces cibles-là est extrêmement important et on peut vraiment le valoriser sur des volumes non négligeables.
Et du coup, j'en reviens à la question de Frédéric de Lyon qui nous dit « Peut-on faire des dons alimentaires à des associations avec nos restes de frigo? Je vais vider le mien avant de partir en vacances. Il y a des choses qui ne sont pas entamées. À qui puis-je les donner? Comment ça marche ? Est-ce que là, on est dans des échelles qui sont trop compliquées?
Alors, déjà, souvent, ça, on peut le faire entre amis, entre voisins, tout simplement. Les volumes d'un frigo sont a priori assez limités. Ouais. Et en général, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et c'est une solution tout à fait efficace.
Et c'est facile pour les produits secs, où il n'y a pas de question de problème, en tout cas sanitaire, avec des dates de durabilité minimale. Alors, c'est un mot un peu compliqué. C'est justement ce que nous proposons de changer. Mais votre biscuit, votre boîte de conserve, il a gardé toutes ses qualités sanitaires. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Dominique, bonsoir.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je suis conseillère principale éducation dans un collège sur Évreux. Et tous les jours, je constate que malgré tous nos efforts pour limiter le gâchis, bien évidemment, au niveau de la demi-pension, si nous avons 500 demi-pensionnaires, tous les repas ne sont pas consommés. Cette nourriture qui est contrôlée sanitairement chaque jour, lorsqu'elle n'est pas consommée, est jetée. Mmh. Or, si on cumule tous les repas non consommés de tous les établissements d'une ville moyenne, c'est effarant de voir cette nourriture parfaitement saine préparée chez nous qui est jetée. C'est vraiment dommage.
Tiens, j'ai une question subsidiaire pour vous, Dominique. Pardon, je voudrais surtout pas vous piéger, mais on a un auditeur qui nous demande pourquoi on peut pas proposer des tailles d'assiettes différentes dans la restauration collective. Est-ce que ça existe pour les enfants, ça?
Alors, non seulement, enfin, on n'a pas de taille d'assiette. En revanche, par contre, on adapte évidemment notre repas à la demande des élèves. On y fait vraiment, vraiment attention. Et évidemment, on propose aux enfants de manger un peu, s'il y a des restes, s'ils en veulent encore, on leur propose. Mais tout ne peut pas être consommé de cette façon. Et c'est terrifiant parce qu'il suffirait peut-être, alors je suis naïve, mais peut-être suffirait-il d'un camion frigorifique qui ramasse tous ces repas non consommés pour pouvoir les redistribuer. Je ne sais pas comment on peut faire, mais c'est vraiment triste.
Ben, on va essayer de donner une réponse à vos interrogations, Dominique. Merci beaucoup. Pierre Galliot, d'abord.
Oui. C'est extrêmement intéressant de travailler sur, évidemment, l'éducation. On a lancé, suite d'ailleurs à la loi du député Garot, une opération qui s'appelait 1000 écoles et collèges, qui visait à impliquer justement l'ensemble des équipes pédagogiques et du restaurant pour limiter les pertes. Et en quelques semaines, 20-25% de réduction et une vraie fierté à la fois pour les élèves et le personnel de restauration à rentrer dans la démarche. Donc déjà ça, on peut vraiment très facilement réduire en restauration collective. Et il existe déjà des associations qui vont collecter ces repas en restauration collective avec les difficultés qu'on a pu évoquer par ailleurs. Il y a un effet d'échelle en effet qui vont être en place, une logistique importante. Et lorsqu'on aura franchi ce seuil, on arrivera très certainement à mieux valoriser ces pertes alimentaires
et
à ce jour.
Ça marche aussi avec les hôpitaux, j'imagine. C'est le sens d'une question, de la question de Geneviève, pareil, hein, Guillaume Garot.
Absolument. Dans les hôpitaux, comme dans les lycées, on produit chaque jour des repas dont certains ne sont pas servis. Et ils terminent en effet à la poubelle. Donc, il faut changer ça. Donc, nous avons l'an dernier voté une disposition dans la loi issue des états généraux de l'alimentation qui permettra aux établissements scolaires comme aux EHPAD de donner ces repas préparés mais non servis. Après, il y a une question logistique que d'ailleurs votre auditrice indiquait. Comment on transporte du lycée jusqu'à l'association de solidarité? Ben, ça fait partie des propositions que nous venons de faire et qui est de dire il faut qu'il y ait un fonds national, des crédits publics pour soutenir toutes ces initiatives locales. Parce que il faut financer l'achat du petit camion isotherme.
Et qui devrait venir quoi, tous les jours, ou quasiment tous les jours, non?
Bien sûr,
faire l'aller-retour.
Tous les jours,
mais ça dépend du volume qu'il y a donné, évidemment. Ouais.
Et ça, c'est très important parce que, vous savez, les freins, les blocages, ils sont là aussi, sur des petites choses. En tout cas, ce sont pas des détails et ça mérite que la puissance publique vraiment appuie toutes ces initiatives sur le terrain. Puis une troisième chose.
Allez-y.
Je crois que il y a aussi la question, et Pierre Galliot, il faisait référence, de l'éducation à l'alimentation et au respect de l'alimentation. Tout à l'heure, vous disiez dans votre propos, on dépense moins pour l'alimentation parce qu'on dépense plus pour autre chose, pour les portables, pour le numérique. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière qu'on accorde moins d'importance à l'alimentation, que ça a moins de valeur à nos yeux.
Oui.
Mais c'est contre ça qu'il faut aussi lutter.
Parce que c'est facile, parce qu'on a oublié qu'il pouvait y avoir
ça,
des privations, parce que
de
c'est des problèmes
société,
de riches, de société.
De consommation et même de surconsommation. Parce que c'est ce qui est quand même affolant dans le gaspillage alimentaire, en tout cas ce qui est révoltant, c'est qu'on produit pour jeter. Ça, c'est une société complètement absurde. On marche sur la tête, c'est comme sur le climat. Donc, il faut qu'on soit capable de conduire des politiques publiques et donc d'éducation nationale pour dire, à un moment donné, on fait tout pour redonner la vraie valeur à l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas simplement la responsabilité des familles, c'est pas simplement la responsabilité des collectivités locales au moment de la cantine, c'est aussi l'affaire de l'État, l'affaire de tous dans les programmes de l'éducation nationale.
Problème de pays riches qui pourtant, nous avons nous aussi des gens qui ont besoin de manger, qui ont faim.
Absolument.
Etc. Donc c'est quand même effroyablement paradoxal. Pierre Galliot.
Et il faut aussi faire le lien avec l'emploi et développement territorial. On peut développer des boucles vertueuses. Il y a l'exemple assez connu de Mouans-Sartoux, qui est un village en région PACA, qui a décidé de passer en 100% produits bio dans les cantines. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit 80% leur gaspillage alimentaire. Et avec le gain économique là-dessus, ils ont pu produire des légumes locaux, forcément à coût plus élevé, mais ils ont augmenté de 180% leur surface agricole autour. Ils ont employé de nouvelles personnes pour justement développer ces légumes, l'éducation à l'environnement, etc. Donc on peut rentrer dans des boucles environnement, lutte contre les gaspillages, emploi, éducation, très positif pour le territoire.
Mais sans forcément que ce soit du 100% bio.
Bien sûr.
Mais des produits de qualité. C'est là-dessus, évidemment, qu'il faut se battre.
Il y a Jérémy sur Twitter qui nous demande d'évoquer l'application Too Good To Go qui permet de bénéficier des invendus de certaines enseignes. Vous connaissez ça, Pierre Galliot ou Guillaume Garraud?
Bien sûr.
Ça marche comment, Too Good To Go?
Ça marche bien.
C'est-à-dire, une fois qu'on l'a installé, l'appli, on fait quoi?
Oui, qui vous permet le soir de pouvoir, dans un magasin, acheter un panier avec des produits qui ne seront pas vendus le soir, mais qui donc, du coup, sont vendus moins cher. Et ça permet à chacun d'avoir accès à de la nourriture parfaitement de grande qualité, quoi, sans difficulté, vendue en magasin, un peu moins cher. Donc, là aussi, c'est un moyen très concret de lutter contre le gaspillage.
Catherine, bonsoir.
Bonsoir, Dominique.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors, je suis d'Annecy et en fait, j'ai un petit truc à partager au niveau du frigo. Uh-huh. Quand on achète tout ce qui est des légumes, salades, carottes, etc., on a tendance à les voir se flétrir au bout de quelques jours. En fait, c'est un truc de cuisinier. Pour garder les légumes un peu plus frais et plus longtemps, il faut les mettre dans un sac poubelle noir, très comme les sacs à gravats, on va dire, qui sont très épais, qui permettent
c'est
de
pas très glamour dans le frigo, le sac à gravats.
Non, c'est pas très glamour, mais en fait, ça tient beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'une salade peut tenir presque une semaine de plus par rapport à une salade normale, grâce à ce truc.
Et c'est important, les trucs comme ça, parce qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. J'ai ce témoignage devant les yeux de Céline qui dit « Nous avons choisi depuis quelques années avec mon conjoint de faire des menus chaque fin de semaine pour la semaine à venir. Ça nous permet d'acheter uniquement les produits dont nous avons besoin et nous permet d'équilibrer notre repas. » Elle précise qu'ils ont 30 ans. Cette démarche peut parfois paraître vieillotte dans notre entourage, dit-elle, mais nous, on le vit parfaitement bien. Et effectivement, quand on sait ce qu'on va acheter, quand on a une liste, il paraît que l'une des clés, c'est la liste de courses. C'est bête et méchant, mais c'est faire ses courses avec une liste.
Pas faire ses courses qu'on a faim. Parce qu'il y a un mouvement naturel qui vise évidemment à avoir les yeux plus gros que le ventre.
Ça aussi, c'est un truc de régime. Jamais de course quand on a faim.
Mais voilà, donc c'est, encore une fois, c'est pas complexe, mais comme tout changement de comportement, il faut l'adopter lentement et progresser au fur et à mesure de la démarche.
Guillaume Garraud, allez-y.
Oui, ce qui est passionnant, je trouve, avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est que chacun peut agir et que l'action de chacun participe à des défis qui sont planétaires. Hein, le défi alimentaire, le défi climatique, et donc, ben voilà, en gérant mieux sa liste de courses, en étant plus attentif à ce qu'il y a dans son frigo, à ce que son enfant va manger à la cantine de l'école, eh bien, on arrive à faire avancer le monde, la planète et notre société de façon générale.
Alors, Catherine parle de mettre ses aliments dans un sac poubelle parce que c'est visiblement un sac poubelle noir pour éviter trop de lumière qui pourrait être.
Oui, mais quand le frigo est fermé, en général, il n'y a pas de lumière.
Alors, qui pourrait être mauvais. moi, j'aimerais bien qu'on revienne une seconde sur la fameuse limitation. La fameuse date de péremption. Parce que j'ai l'impression qu'on m'a toujours dit tout et son contraire là-dessus. Alors il paraît que 15 jours plus tard, c'est pas grave. Et en même temps, du coup, puisque 15 jours plus tard, c'est pas grave, ben, ça sert à quoi de mettre la date 15 jours plus tôt? Bref, qu'est-ce qu'il faut croire là-dedans? Comment ça marche, Guillaume Garraud, ces histoires de date de péremption?
Soyons simples et clairs. Pour les produits frais, où il y a une date limite de consommation, il faut évidemment respecter cette date limite de consommation parce qu'il y va de prescriptions sanitaires. Hein, ça concerne les yaourts, ça concerne la viande, la charcuterie, ça, sous vide. Donc là, il faut être exigeant vis-à-vis de soi-même. Bon. Ensuite, il y a les produits secs, les produits qui sont soumis à ce qu'on appelle une date de durabilité minimale. Alors la mention, c'est à consommer
de préférence
avant le. Et c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, quand vous donnez le paquet de gâteaux à votre voisin. La date qui est inscrite, c'est pas une date limite.
Ouais.
Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est la date à partir de laquelle le produit, au-delà de la date passée, sera peut-être moins croustillant si on reprend le paquet de gâteaux. Mais il aura gardé ses qualités sanitaires. Bon. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui. Et la proposition que nous faisons dans l'évaluation de la loi et que donc je porterai comme amendement, c'est l'idée que pour certains produits, on n'ait plus besoin d'une date de durabilité minimale.
Bien sûr. Hein, les pâtes, les trucs comme ça. Pourquoi il y a une date sur les pâtes, par exemple,
voilà, le sucre. Quand vous avez un kilo de sucre, bien, il n'y a pas de date dessus, de date de péremption.
Ah, ouais.
Quand vous avez votre vinaigre, il n'y a pas non plus. Le vin, il n'y a pas non plus. Donc, sur certains produits, alors très encadrés, évidemment, parce qu'il faut toujours être intraitable sur les questions sanitaires, mais sur certains produits sec, là en l'occurrence sans matière grasse, eh bien je pense que on peut changer la perception à travers un changement sur les dates appliquées sur le paquet en question. C'est par des choses comme ça aussi qu'on va aider les consommateurs, les citoyens, à être plus responsables vis-à-vis de son alimentation. Il faut dire une chose, c'est pas une réglementation française. Il s'agit d'une réglementation européenne. Donc il faudra donc que la France, à travers le gouvernement, porte ça au plan européen. Donc il faut inviter le gouvernement à le faire.
Et vous avez regardé l'un comme l'autre, j'imagine, ce qui se passe chez nos voisins. Est-ce que ces préoccupations qui sont les vôtres sont aussi les leurs? Donc on va trouver facilement un terrain d'entente ou pas? Par exemple, une loi comme la vôtre, celle de 2016, elle existe ailleurs ou pas?
Ça fait partie de mes bonheurs de responsable politique. Ça avance partout dans le monde. Et la loi que j'avais portée en 2016, maintenant elle fait école. Le Pérou s'en est inspiré, le Danemark, la Suède, la Malaisie aussi s'y intéresse. Ça veut dire que aussi, et en Europe, c'est le même cas. Donc on avance, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais moi je suis fier quand la France peut montrer le chemin, ouvrir une voie. Et là-dessus, la prise de conscience contre le gaspillage alimentaire, elle est bien évidemment, elle est mondiale. Alors ça va plus ou moins vite, mais il va falloir accélérer en France bien sûr, mais aussi en Europe.
Pierre Galliot.
Oui, parce que la prise de conscience de la notion de gaspillage alimentaire, elle est partagée au niveau mondial. C'est ça le côté facile.
Ça marche avec les préoccupations d'environnement, etc.
Bien sûr,
tout ça est évidemment le même sujet.
Le social que ça représente, tout simplement, puisqu'on a des disparités, des inégalités qui augmentent. Ça étant dit, je fais une petite digression. Ce qui est intéressant, c'est aussi le modèle donné par la politique de gaspillage alimentaire sur d'autres types de gaspillage. Le mot gaspillage passe très bien sur l'alimentaire, et pourtant il passe pas forcément si je jette un t-shirt que je pourrais encore porter ou une cafetière, etc. Et plus ça avance, plus on se rend compte que on prend ça maintenant pour du gaspillage de matière, d'énergie, de produits. Et les textes à venir, notamment de la future loi économie circulaire ou anti-gaspillage, va essayer d'appliquer justement l'interdiction de destruction de produits encore neufs ou consommables pour l'alimentaire. Bah, donc on a un mimétisme sur des produits voilà, qui permet de se rendre compte aussi que le gaspillage, il est aussi partout et, que, et qu'on peut appliquer ses comportements à tous nos équipements dans le domicile.
Athos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous appelez vraiment Athos ?
Absolument, oui.
Wow, je suis très impressionné. Allez-y, je vous écoute, pardon.
Voilà, moi je voulais intervenir sur deux points. Je suis principal d'un collège dans le Nord, dans une ville qui s'appelle Watt, et on a beaucoup travaillé avec nos élèves sur le gaspillage alimentaire de façon à diminuer les quantités que jetaient nos élèves. Donc, sur une année scolaire, on a réussi, on pèse le poids moyen par assiette jetée, on est passé de 93 grammes à 72 grammes. Alors, ça a l'air insignifiant, mais sur le nombre de repas servis qui sont de 500 par jour, c'est quand même significatif. Il y a un deuxième point sur lequel je voulais intervenir, et j'avais l'occasion d'en discuter avec Jean-Pierre Decolle lorsqu'il était député du Nord et qu'il avait fait un rapport parlementaire sur le sujet. Ce sont des normes qu'on appelle HACCP qui nous imposent la marche en avant. C'est-à-dire que dès qu'un produit entre en cuisine, il est obligé d'aller de l'avant et de franchir les étapes jusqu'au moment où on le sert aux consommateurs finaux. Et une fois qu'il est présenté aux élèves au niveau du self, même s'il reste de la viande, des légumes, etc., on n'a pas le droit de le remettre en frigo et on n'a pas le droit de le donner à des associations caritatives qui pourraient fort bien en profiter, et d'autant plus que j'ai une excellente équipe de cuisine qui fait une cantine absolument admirable, et donc ce serait très généreux de pouvoir faire profiter ces gens. Or, dès que les produits vont quitter mon établissement, je reste responsable alors que je ne peux pas maîtriser la chaîne du froid, et ça c'est un réel problème, et moi je ne tiens pas à me retrouver avec des ennuis, et c'est un sujet sur lequel on ne peut pas avancer dans l'état actuel des normes, parce que dès que... moi, je reste responsable de ces produits. Voilà, donc ça c'est un vrai problème.
Merci.
Alors tous les jours, on jette des quantités de nourriture qui pourraient encore être consommables.
Merci beaucoup, Athos. Guillaume Garot va vous répondre. Effectivement, c'est lui le principal du collège qui est responsable de ce qui se passe quand son produit sort.
Alors, tout ça va être précisé dans le cadre d'une ordonnance que le gouvernement va signer durant le mois de juillet, consécutivement à la loi que nous avions votée l'an passé. Moi, je veux dire à monsieur le principal du collège qu'il y a déjà, heureusement, en France, des expériences, des initiatives qui sont conduites sans problème juridique majeur, où on a des lycées, des collèges, des hôpitaux, des EHPAD qui donnent les repas qui ont été préparés mais qui n'ont pas été servis à des associations de solidarité. Donc ça existe déjà. Et ça s'appelle, avec les Restos du Cœur, par exemple, le camion du cœur.
Donc comment ils pourraient faire, notre ami Athos, par exemple, pour
Alors,
essayer
le
de...
Alors, le problème, c'est que il y a parfois une incertitude ou des préventions par rapport à l'interprétation juridique de la responsabilité de chacun. Et c'est vrai que ça freine certaines initiatives. Donc, moi, j'attends que, dans l'ordonnance dont je parlais à l'instant, le gouvernement précise bien les responsabilités de chacun. Alors, ça vaut là, en particulier, vous le disiez, pour le don des collèges ou des lycées, des restaurants, des collèges et des lycées, vers les associations de solidarité. Mais on pourrait imaginer aussi que cette précision juridique vaille aussi pour les citoyens que nous sommes, qui veulent donner aussi à des associations de solidarité. Donc, si on fait le clair juridiquement, on lèvera vraiment des freins aujourd'hui, notamment des freins psychologiques.
C'est marrant, cette question de Claire sur franceinter.fr. Que pensez-vous du fameux doggy bag, couramment utilisé dans d'autres pays, notamment en Allemagne et aussi en Angleterre, aux États-Unis, qui n'a vraiment jamais percé en France, au fond? On a l'impression que ce n'est pas dans notre culture, Pierre Galliot.
Oui, il y a en effet un réflexe culturel à avoir. Ce qui est, le débat qu'il y a eu souvent, c'est impact de l'emballage versus impact de la nourriture. Il faut savoir que, de manière générale, l'impact environnemental du produit alimentaire est très supérieur à l'emballage. Donc, vaut mieux, quand on a une quantité évidemment non négligeable, récupérer l'aliment et le ramener pour le consommer. Et si possible, évidemment, garder l'emballage pour le réutiliser, c'est évident. Donc, en effet, ça, c'est une pratique qui n'est pas courante chez nous. Toutefois, il faut quand même rappeler qu'on prend de plus en plus de repas extérieurs en France, et c'est même d'ailleurs dans le monde, et qu'on gaspille 4 fois plus dans un repas à l'extérieur qu'un repas à domicile. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas conserver les restes pour les rendre. On nous sert des portions qu'on ne peut pas forcément toujours juger. Voilà, donc les repas à l'extérieur, c'est une tendance aussi forte qui augmente le gaspillage. Donc le doggy bag, c'est faire une pédagogie qui va se rendre compte, attendez, vous voyez ce que vous ramenez, il va peut-être falloir en demander un petit peu moins.
On n'a pas le choix au resto souvent de la taille des...
Mais ça pousse le restaurateur qui doit fournir le doggy bag à se demander s'il ne ferait pas mieux de proposer, pourquoi pas durable, ou mieux dosé. Donc c'est vraiment un apprentissage à la fois entre le restaurateur, l'offre commerciale et le client.
Guillaume Garot.
Oui, et vous le disiez, Fabienne Saintès, c'est pas tout à fait dans la culture française. Mais aussi parce que les portions en France sont moins importantes qu'elles ne le sont aux États-Unis. Le gaspillage aux États-Unis, je lisais une étude cet après-midi, c'est effrayant. 40% au stade de la consommation qui va à la poubelle. C'est vraiment proprement hallucinant. En France, on n'est heureusement pas dans cette dimension-là. Et c'est vrai que les portions dans les restaurants sont plus raisonnables. Et donc, il y a de fait moins de gaspillage. Mais s'il y a du gaspillage dans la restauration, c'est peut-être pas tellement dans l'assiette du convive, mais c'est aussi sans doute en amont, dans la préparation, parce que c'est difficile de prévoir les quantités. Quand vous n'êtes pas dans la restauration collective et que vous êtes dans la restauration commerciale, vous allez au marché le matin, vous faites vos provisions et vous ne savez pas quel
client...
Si
vous ferez sans couvert,
voilà,
ou 60.
Exactement. Combien de clients dans la journée. Donc, il y a aussi des programmes de formation qu'il faudra engager et qui sont d'ores et déjà engagés. Il y a des choses formidables de fait avec les chefs, les cuisiniers, tous ceux qui sont au fourneau, tous ceux qui sont derrière le self, de telle sorte qu'on puisse vraiment être dans un mouvement collectif extrêmement énergique, en tout cas moi je l'appelle de mes voeux, contre le gaspillage alimentaire. Tous ceux qui ont à voir à l'alimentation, y compris donc les citoyens, les consommateurs que nous sommes, on a un rôle à jouer.
Pierre Galliot.
Juste un point important qu'a évoqué le député Garot. Il y a de plus en plus de restaurants, justement, ils proposent à la carte un plat, deux plats, trois plats, parce qu'ils sont allés faire les courses le matin. Et puis comme ils ne veulent pas gâcher, ils vont faire ce qu'ils ont. Voilà, des produits frais, etc. Et donc, il n'y a pas de gaspillage. Et la question de la dictature du choix, elle est identique, pareil, dans les grandes surfaces. Si vous avez 200 références de yaourt, vous allez forcément avoir plus de gaspillage, parce que vous avez moins de turnover, évidemment, que si vous avez une seule référence de yaourt. Donc, ce choix multiple débordant, qui peut évidemment être un intérêt pour le consommateur, parfois, c'est trop, et il pousse en tout cas au gaspillage. Donc, peut-être qu'on pourrait essayer de travailler à limiter l'offre pour avoir un produit de qualité, et finalement, se laisser surprendre parce que propose le chef dans un restaurant.
Ouais. Ça existe dans certains restaurants, mais pourquoi pas, en effet, ou menu unique le lundi, le mardi, le mercredi. Mais vous avez mis quelque chose dans mon oreille, Pierre Galliot, l'idée de demander du rab au restaurateur. Après tout, ça ne se fait pas du tout, mais pourquoi pas imaginer des portions plus petites et avoir le droit d'y revenir
bien
si
sûr,
on a envie
d'y
revenir.
C'est ce qu'on fait dans la restauration collective de plus en plus. Mais il faut toujours associer ça, et Pierre Galliot le disait tout à l'heure, à la qualité des produits. Vous savez, moi je suis d'un département, la Mayenne, où il y a une initiative menée par notre département dans les collèges pour mettre davantage de produits français ou locaux dans l'assiette. Et ça produit mécaniquement, j'allais dire, moins de gaspillage alimentaire. Donc c'est un cercle vertueux. On a le sentiment que c'est plus cher. Non, c'est pas plus cher parce qu'au final, on peut faire des économies.
On parlait de restauration collective, on en a beaucoup parlé. Voici Sylvain qui est cuisinier en EHPAD. Bonsoir Sylvain.
Oui, bon. Moi, je vous appelle parce que du coup, dans toutes les restaurations collectives, en fait, on sert de la viande ou du poisson en fait à tous les repas. Et donc, je voulais parler surtout de la viande parce que en général, c'est pas vraiment de la grosse qualité. Et donc, il y en a aussi beaucoup qui part à la poubelle. Et quand on sait l'impact écologique que la production de viande peut avoir, je me disais, est-ce qu'il faudrait pas plutôt, enfin, partir sur en servir un repas sur deux et puis quelque chose de meilleure qualité, quoi.
Alors oui, évidemment, Sylvain frappait au coin du bon sens cette remarque. Merci beaucoup, Pierre Galliot.
Ah, c'est très très
alors,
important.
Alors, de la viande à tous les repas, par exemple. Alors,
là, on revient
aujourd'hui,
sur la question.
Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Enfin, de moins en moins.
De moins en moins, flexitarien. Ouais. La question globale du régime alimentaire. Le gaspillage alimentaire, il s'inscrit là-dedans. C'est un morceau de la question de on mange quoi? On mange des produits de qualité, le député Garraud vient de l'évoquer. Et si on regarde l'aspect budgétaire, qui est quand même le nœud de la guerre pour les ménages ou la restauration, si en effet on diminue le coût lié aux dépenses sur les produits, notamment carnés, on peut acheter des produits de meilleure qualité. Quand on baisse les coûts du gaspillage, il faut aller vers le mieux. Et en réduisant les quantités, parce que ce qui est important aussi, c'est qu'évidemment, le monde agricole, les éleveurs puissent continuer à vivre leurs produits, mais on peut le faire sans forcément viser la quantité, mais en visant la qualité. Ça, c'est fondamental.
Écoutez ce que nous dit Benjamin sur franceinter.fr, qui nous dit « Je suis chauffeur de poids lourds, je livre des entrepôts de grande surface et j'ai vu des palettes entières être jetées à cause d'un paquet de farine qui était déchiré ou souillé. » C'est quand même terrible.
Ça fait partie, ça, des relations commercial extrêmement tendu, et il faudra bien détendre de ce point de vue-là, entre la grande distribution et ses fournisseurs. Et il y a une forme de chantage, parfois, moi je n'hésite pas à le dire, de la grande distribution sur certains des fournisseurs en disant, il y a un produit là, qui n'est pas conforme d'un point de vue emballage, parce que c'est un peu déchiré, ou ceci et cela, et hop, on renvoie la palette. Alors, je vous le redis, en 2016, dans la loi que j'avais fait voter, précisément, il y a une disposition qui autorise, notamment pour la MDD, les marques distributeurs, ceux qui produisent, ceux qui fabriquent, donc l'industriel, à donner ce type de produit aux associations de solidarité plutôt que de les jeter, de telle sorte que juridiquement, vous savez, c'est un problème juridique, on dise que la responsabilité, c'est celle de celui qui a fabriqué et non pas de celui qui avait commandé.
Mais pardon, pourquoi on jette la palette entière s'il y a un paquet de farine qui est déchiré? Je ne comprends pas bien la logique. Parce
mais
que
vous avez raison de ne pas la comprendre.
Souillé, je peux comprendre, on ne sait jamais, j'en sais rien, de l'eau, des souris, j'en sais rien. Mais
Ce sont des pratiques qui sont, à mes yeux, condamnables. Ce sont des pratiques aujourd'hui dans les négociations commerciales. C'est aussi là-dessus que nous travaillons en ce moment à l'Assemblée nationale.
Tiens, nous avons Bruno qui tient une supérette à Paimpol. Il a de la chance. Mon enseigne évite de jeter au maximum, dit-il. Nous enregistrons en perte les fruits et légumes abîmés. Nous faisons des cagettes à 1 euro pour les clients. 1 euro est enregistré par la société en don aux associations. Et ça marche aussi d'ailleurs pour les fleurs et les plantes, nous dit-il. Preuve que c'est pas si compliqué, en fait, y compris parce que ça fait partie aussi de vos amendements sur les petits commerces alimentaires, en fait. Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'on jette l'opprobre sur les grosses, grandes surfaces. Mais au fond, il y a du travail à faire chez les petits aussi.
Et puis, quand même, moi, ce que je veux dire ce soir avant que l'émission se termine, mais c'est qu'on a fait des progrès formidables depuis 2016. Les dons des grandes surfaces au Resto du Cœur, depuis la loi, c'est plus 24%. Aux banques alimentaires, c'est plus 23%. Bon, ça veut dire que ça fonctionne, que ça marche. Mais il faut amplifier, il faut accélérer encore cette dynamique collective. Et nous faisons la proposition, en particulier, que les petits commerces de bouche puissent eux aussi passer convention avec des associations de solidarité pour donner le soir leurs invendus en boulangerie, par exemple, comme ça se fait déjà sur le terrain. Mais on pourrait systématiser cela à la demande, à l'initiative des associations de solidarité sur le terrain.
On en a parlé un petit peu au début, ça nous permettra de boucler la boucle. Pardon Nelly, j'ai pas le temps de prendre votre appel, mais je vais le prendre dans ma voix. Il faudrait aborder, nous dites-vous, la problématique dans son ensemble. Quand on arrête d'acheter des produits emballés, transformés, etc., eh bien, quand il n'y a plus d'emballage, c'est facile. Et en effet, quand on achète au poids, quand on achète sans emballage, quand on achète en vrac, comme ça se fait de plus en plus, on gâche moins, Pierre Galliot, c'est presque mathématique, non?
Alors, ça dépend des produits, mais pour les produits secs notamment, etc., on fait plus attention à la nourriture, et en effet, les pertes peuvent être minimisées.
Allez, merci beaucoup, merci à tous pour vos nombreux appels. Merci comme d'habitude, merci de votre participation et portez-vous bien.